France Inter. Bonjour, bienvenue dans le débat de midi sur France Inter. Très heureuse de vous retrouver pour un nouvel été à phosphorer autour des grandes questions qui divisent la société. Et ce matin, nous sommes au bord de la mer. Un homme sort de l'eau, il s'allonge en paix sur le sable, il s'apprête à allumer une cigarette. C'est sa préférée, elle a un goût salé. Quand soudain, il se fait rattraper par la patrouille. Hop hop hop, monsieur, il est désormais interdit de fumer sur la plage. Terminé de mégoter dans les jardins, dans les stades. Je sais, nous sommes en plein air, mais c'est la nouvelle règle et ça fera 135 euros d'amende. Faut-il bannir la cigarette de l'espace public ? Ou au contraire, arrêter d'emmerder les Français, leur laisser le droit, voire le plaisir, de s'en griller une, même si ce plaisir tue ? Car le tabac reste la première cause de mortalité. 75 000 décès chaque année, des morts qui sont évitables. Est-ce le rôle du gouvernement de nous épargner la future douloureuse, pour notre bien ou celui de la sécu ? Et dans ces cas-là, pourquoi ne pas interdire l'alcool, voire même, je ne sais pas, la passion ? L'État doit-il nous empêcher de nous faire du mal ? Débat nicotiné jusqu'à 12h45 sur France Inter.
France Inter, le débat de midi, Paola Puerari.
Et ce débat sur les fumeurs bannis de l'espace public vous fait déjà beaucoup réagir, chers auditeurs. Vous êtes très nombreux à vous réjouir de cette interdiction, comme François qui nous écrit « Il était temps, je suis ravi, si on ne pense qu'à la liberté individuelle de fumer, on rate un angle, qu'en est-il de la liberté des autres de ne pas être enfumée ?» Juliette, au contraire, trouve ça complètement ridicule. Dans ces cas-là, il faut interdire aux industriels de mettre n'importe quoi dans la bouffe. Alors si, comme ces auditeurs, eh bien, vous trouvez que l'État vous infantilise ou au contraire qu'il a bien raison d'engager une nouvelle génération sans tabac. Vous réagissez sur l'application France Inter. Vous nous envoyez une note vocale sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. 01 45 24 7000. Vous faites entendre votre voix comme l'ont fait Fred et Oriane.
En extérieur, je vois pas où est le problème. C'est encore une atteinte aux libertés, comme d'habitude. Il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de débat. Enfin, ça a été fait de façon unilatérale.
Il y a une phrase qui m'a fait bondir, c'est « il faudrait arrêter d'emmerder les Français ». Là, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on parle d'une partie des Français, une partie de Français fumeurs qui a décidé de s'exposer aux effets néfastes du tabac. Quand on va en terrasse, qu'on est non-fumeur, qu'on est un enfant, qu'on est une personne vulnérable, on n'a pas décidé de s'y exposer et on ne veut pas s'y exposer. Donc quand on parle d'emmerdement des Français, peut-être que ce serait bien de prendre en compte cette partie des Français là aussi.
Et on attend vos messages au 01 45 24 7000. Et pour débattre de l'interdiction de la cigarette dans certains espaces publics, mesures de santé ou emmerdement supplémentaire, j'ai à ma table le médecin préféré des Français. Bonjour Michel Simès.
Bonjour Paula.
Alors je dis préféré car vous êtes quand même toujours au top des classements de personnalité, ambassadeur du mois sans tabac et auteur de Santé à vous de jouer. Et contre vous, il y aura l'écrivain Nathan Dever. Bonjour.
Bonjour Paula.
Auteur de Espace fumeur, publié chez Grasset, un livre qui ne fait pas l'apologie du tabac, mais qui, je crois, défend la liberté, voire le plaisir de fumer. Vous êtes à combien de cigarettes au compteur, Nathan ?
À peu près un paquet par jour, un peu plus selon les moments, un peu moins selon les moments.
Et vous allez réussir à tenir une heure, là, comme ça, sans fumer ?
Ça va être difficile, je vais devenir de plus en plus nerveux à mesure que l'émission va avancer.
Alors, vous êtes agrégé de philosophie, et ça tombe bien, car il s'agit d'un débat qui pose des questions profondes. L'État doit-il nous empêcher de fumer ? Est-ce qu'il s'agit d'une dérive hygiéniste ? Certains diraient même puritaine, la vraie liberté consiste-t-elle à s'affranchir de l'addiction ? Peut-être que Michel Simès nous donnera donc ses conseils à la fin de l'émission. On commence tout de suite avec un homme qui se réjouit de cette interdiction.
Le coût estimé pour la sécurité sociale chaque année des méfaits du tabac est estimé à 26 milliards par an, alors que les recettes fiscales ne sont que de 15 milliards. Et si on prend l'ensemble du coût, c'est-à-dire le coût social total, les coûts de santé, on considère que c'est plus de 100 milliards d'euros par an qui sont dus au tabac pour un budget de l'assurance maladie qui est environ 200 milliards.
Voilà, message d'un cardiologue, Michel Simès, qui dit donc effectivement que l'État interdit aux Français de fumer dans certains espaces publics pour leur bien, mais aussi pour le bien de la sécurité sociale.
Oui, c'est tout le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait estimer que... Alors, tout le monde sait que le tabac est mauvais pour la santé, tout le monde sait qu'il y a du tabagisme passif, on va y revenir, et qu'on n'a pas, effectivement, quand on est non-fumeur, à supporter le tabac des autres sous peine d'être soi-même malade. Mais il y a un vrai débat autour du coût du tabagisme vis-à-vis de la sécurité sociale. Et le débat va même plus loin, et là, on fait hurler tout le monde. Est-ce que la sécurité sociale doit prendre en charge des comportements à risque qui entraînent un coût énorme pour la sécurité sociale de la part de gens qui fument? Mais c'est le cas pour la cigarette, comme pour d'autres comportements addictifs ou pour d'autres comportements à risque. Et c'est un vrai débat.
Ça veut dire que si
sociale.
Nathan Devers, par exemple, finit avec un cancer du poumon, c'est vous et moi qui allez le soigner et financer ses excès.
Moi et lui. Parce que il a cotisé à la sécurité sociale. Donc c'est aussi l'argument des fumeurs en disant si je tombe malade suite au tabagisme, j'ai quand même cotisé, j'ai donné ma part à la sécurité sociale, donc il est normal que la sécurité sociale me prenne en charge. Mais que disent les non-fumeurs? Mais c'est un débat. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de rembourser les fumeurs, les addicts à l'alcool, etc. Mais c'est un vrai débat de santé publique et de sécurité sociale quand on sait quel est le déficit de la sécurité sociale aujourd'hui.
Et de liberté individuelle, parce que Nathan, c'est ça que vous dites. Vous dites, et j'ai le droit de fumer, j'ai le droit de m'auto-détruire, de garder ce plaisir, même si effectivement fumer tue.
Oui, exactement. Je crois que dans cette loi donc, d'interdiction de fumer dans certains espaces publics, en fait, on a tenu compte de la liberté de certains. Et ça, je l'approuve parfaitement. J'ai pas une lecture binaire de cette loi. C'est-à-dire qu'il y ait des non-fumeurs, des personnes vulnérables, des enfants, qui aient le droit de respirer un air pur, qui aient le droit, même en dehors de toute considération médicale, de ne pas être emmerdés, pour le dire vulgairement, par un fumeur qui va venir les enfumer d'une odeur qu'ils n'ont pas forcément envie de sentir dans un jardin public, dans une plage, etc. Je l'entends. Qu'on puisse aussi réfléchir sur la santé publique et dire que à cause du tabagisme passif, des individus qui se mettent en danger n'ont évidemment pas à mettre en danger autrui. C'est une réflexion qu'on a sur le tabac, mais qu'on pourrait avoir sur n'importe quel autre comportement à risque. Je l'entends. En revanche, je note que dans la réflexion sur la place du tabac dans l'espace public, il y a eu un sacrifié. Et le sacrifié, c'est le droit du fumeur de profiter de sa cigarette, par exemple en vacances à la plage. C'est en effet, l'auditeur le disait tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, peut-être la plus agréable de l'année, la cigarette qu'on prend à la plage devant le coucher de soleil, avec parfois un petit verre de vin dans la main en plus, donc ça cumule deux comportements à risque: la liberté de fumer dans un parc après une rupture en écoutant de la musique ou en réfléchissant, la liberté de fumer en écrivant, en lisant, etc. Cette liberté là elle peut sembler très superficielle dite comme ça, mais enfin c'est une liberté. Et ce que je note, c'est que dans cette réflexion, on a sacrifié les individus sur l'autel du collectif, puisque en fait ce qu'on dit c'est la protection du collectif passe avant les libertés des individus, et ces libertés elles sont jugées comme contraires à l'intérêt global. Et deux, on a estimé qu'en effet un individu n'a pas le droit non seulement de mettre en danger autrui, ça je signe, mais de se mettre en danger lui-même, ou en tout cas que l'État doit tout faire pour l'empêcher par tous les moyens d'agir ainsi.
Et pourtant, sur votre paquet, il est écrit « Fumez-tu ». Alors pourquoi fumez-vous ?
Bien sûr, il est écrit « Fumez-tu », et c'est pour ça, moi, j'aborde cette discussion avec beaucoup de plaisir, et pas du tout comme un clash, c'est-à-dire que le discours médical sur le tabac me semble central, d'autant, on y reviendra tout à l'heure, qu'on a longtemps menti sur la cigarette en faisant croire qu'elle n'était pas aussi dangereuse qu'on ne le sait aujourd'hui. Donc, « Fumez-tu », il faut le savoir, il faut le dire, et ça, je n'ai aucune opposition envers cela. En revanche, il me semble qu'un individu a le droit, dans l'échelle de sa vie, d'estimer que la valeur santé n'est pas celle qui va être la première. On pourrait prendre la liste de tous les artistes qui fument parce qu'ils se disent « l'œuvre que je suis en train de composer est plus importante que la santé de mes poumons », ça c'est une réflexion qui doit aussi être entendue.
Alors Michel Simès, que lui répondez-vous ?
Vous dites « la protection du collectif passe avant l'individuel ». Oui, ça s'appelle la santé publique. Et si on a demandé aux Français de se vacciner contre le Covid, c'est pour qu'ils se protègent individuellement, mais pour aussi protéger l'ensemble de la population et ne pas transmettre le virus. C'est le principe de la santé publique. Oui, vous avez raison, je comprends que votre cigarette sur la plage soit très agréable. Néanmoins, quand vous êtes sur la plage, à moins d'avoir les moyens d'avoir une plage privée, vous n'êtes pas tout seul. Et vous avez à côté des enfants, vous avez des femmes enceintes, vous avez des gens qui n'ont pas forcément envie, en fonction de la direction du vent, de se retrouver avec leur fumée de cigarette. Sans compter, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé, de me brûler sur un mégot qui venait d'être jeté en marchant sur la plage. Et quand c'est le cas d'enfants, vous savez que les mégots c'est un vrai problème. Mmh. Les gens, parce qu'il y a de moins en moins de cendriers dehors, donc effectivement les gens les balancent où ils veulent. Il y a des risques pour les enfants, non seulement de la fumée, non seulement de la brûlure. Voilà, il faut aussi penser, je pense que votre réflexion est de philosophe est une réflexion autour de la liberté individuelle. La santé, ça n'est pas que de la liberté individuelle. Je vous le répète, c'est de la santé publique. Et les autorités, puisque c'est le thème du débat aujourd'hui, est-ce que l'État doit intervenir ? Oui. Le rôle de l'État, c'est de s'occuper de santé publique, de s'occuper de la santé de tous les Français, y compris de ceux qui n'ont pas envie de respirer la fumée.
Mais vous
ne
trouvez pas que c'est infantilisant, Michel Simès ?
Mais malheureusement, en santé,
c'est-à-dire l'État nounou qui vraiment prend soin de ses citoyens ?
Mais Paola, j'ai exercé pendant 35 ans à l'hôpital. Je suis ORL. J'ai consulté pendant 35 ans. Et malheureusement, vous avez de temps en temps des patients qu'il faut infantiliser. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir, et le tabac en ORL, je peux vous dire qu'on connaît, qui sont venus me voir avec des cordes vocales qui étaient à la limite du cancer. Inflammatoire, et si on sait très bien dans ces cas-là que si le patient continue à fumer, il risque d'avoir un cancer. Vous avez beau expliquer ça aux patients, parfois il faut se mettre à être un peu plus ferme et infantiliser parce que le patient revient 6 mois plus tard avec les mêmes cordes vocales et en continuant de fumer. Mmh. Et il faut lui dire, monsieur, je suis désolé, il y a un moment où je ne vais plus rien faire pour vous parce que il faut infantiliser, il faut expliquer les dangers. Alors, si on n'avait pas besoin d'infantiliser, on ne rendrait pas les vaccins obligatoires. Mmh. Il suffirait de dire, faites vacciner votre gamin. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir 11 vaccins obligatoires.
Et dans ces cas-là, pourquoi la cigarette ? Pourquoi ne pas étendre cette interdiction et cette protection finalement à d'autres plaisirs qui tuent également, Nathan Dever.
Oui, exactement. Moi, ce que je reproche à cette loi, c'est pas ce que vous dites, parce que c'est le réflexe de l'interdiction. Parce que le problème que vous soulevez, on aurait tout à fait imaginé concrètement de dire on va faire un espace fumeur dans les plages, petit, où les fumeurs pourront aller fumer leurs cigarettes sans déranger personne. Ça n'a pas traversé l'esprit de cette loi qui a décidé d'interdire globalement le tabac. Et donc, la réflexion qu'on peut en effet avoir, c'est se dire tous ces arguments que vous dites sur le tabac, ils sont valables aussi, par exemple, pour l'alcool. L'alcool qui, tout le monde le sait, est extrêmement dangereux, qui génère beaucoup de maladies, qui est addictif, qui en plus, une chose que n'a pas le tabac, c'est que c'est une modification comportementale immédiate. Pourquoi on ne l'a pas sur l'alcool ? L'hypothèse que je formulerais, c'est de dire que derrière, il y a aussi tout un imaginaire moderne sur le tabac, consistant à dire, en gros, le tabac est une drogue inutile. Ça sert à rien de fumer. Personne ne dirait ça sur l'alcool, parce que si vous voulez, l'ivresse, tout le monde comprend le plaisir qu'il peut y avoir à être ivre. Le regard qu'on peut avoir, en tout cas certains non-fumeurs peuvent avoir sur les fumeurs, c'est pas, je crois, seulement un regard médical, mais il y a aussi un imaginaire derrière.
Alors, on va se demander dans la prochaine partie de cette émission, effectivement, s'il y a un deux poids, deux mesures ou un deux poids, dix mesures. Car si on se met à interdire eh bien, la cigarette, pourquoi pas l'alcool, le sucre, voire même les patients, va nous dire Françoise Fabian, la grande actrice qui va être en ligne avec nous. 92 ans, elle n'a jamais arrêté de fumer, même si, attention, elle n'avale pas la fumée, hein, elle crapote. Elle défend que le plaisir, ça fait mal, que vivre, c'est aussi mourir. Prenez le temps d'y réfléchir en écoutant. Dans Spike Island de Pulp, le débat continue sur France Inter. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged and moved on. It's a guess. By the way, it's fine.
woman ashamed I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Le débat de midi.
On est toujours ensemble jusqu'à 12h45 sur France Inter pour se poser une question. Alcool, tabac, l'État doit-il nous empêcher de nous faire du mal? Doit-il prendre soin de nous? Ou est-ce que vous en avez marre d'être infantilisé? Alors c'est le cas de Joël. Joël nous écrit « Liberté !» ou alors « Interdisons l'alcool, le sucre, les aliments transformés, les émissions de CO2. Tout cela coûte un coup à la sécu. » Vous êtes très très nombreux à nous écrire sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000 01 45 24 7000 ou à vous, Jean, enregistrer comme l'a fait Dorothée.
Concernant l'interdiction du tabac, moi j'aimerais bien en effet qu'on laisse les gens vivre comme ils ont envie et faire ce qu'ils ont envie. Je voudrais demander au ministre, en fait, quand est prévu l'affichage la malbouffe-tu sur toutes les devantures de McDo, KFC et Burger King, et aussi le diesel-tu à côté des parkings souterrains, des autoroutes.
Et je suis toujours en compagnie de Michel Simès et du philosophe Nathan Devers, auteur de Espace Fumeur, et d'une femme qui a une santé de fer, qui est une grande actrice et qui, on peut le dire, a eu une belle vie. Bonjour Françoise Fabian.
Bonjour.
Alors j'entends votre très belle voix au téléphone. Je me demandais si vous fumiez toujours. Quel âge avez-vous? Est-ce que la cigarette vous donne encore du plaisir?
J'ai 92 ans. Je fume toujours, beaucoup moins qu'avant. Et oui, la cigarette, si ça ne donnait pas de plaisir, je ne fumerais pas. Je cherche un certain plaisir d'apaisement à partager une cigarette avec un ami après avoir bien dîné, avoir bien bu. Ça me convient très bien.
Et alors aujourd'hui, en France, on n'aura plus le droit de fumer sur les plages, dans des parcs. On n'aura plus le droit de fumer dans certains endroits en plein air. Qu'est-ce que ça vous inspire?
On n'a plus le droit de rien alors. Pourquoi s'embrasser en plein air? Pourquoi respirer? Pourquoi? L'air est tellement pollué, on respire de l'air pollué, on dégage de l'air pollué. Tout est pollué maintenant.
Mais on en meurt de la cigarette, Françoise Fabian. Est-ce que c'est pas bien?
On meurt de vivre, on meurt de tout. Il faut bien mourir, il faut bien finir par mourir.
Donc vous trouvez que ce plaisir-là vaut bien la mort?
Entre autres, oui.
Vous pensez pas qu'il faut créer une génération de jeunes sans tabac?
Mais on ne va pas créer une jeune génération sans tabac. On ne va pas tout d'un coup faire naître des gens en disant il est interdit de boire, il est interdit de fumer, il est interdit d'aimer, il est interdit de voyager, il est interdit de tout. Alors ça devient invraisemblable.
Donc vous dites ode au plaisir, même s'ils sont un peu destructeurs.
Mais la vie est destructrice. Ça fait partie de la vie. Tout fait partie de la vie.
Alors merci pour cette ode à la vie, Françoise Fabian. Et puis je vous laisse allumer une cigarette en raccrochant.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai très très bien vécu. Je suis très contente d'avoir vécu ma vie et je continuerai. Autant qu'il sera possible.
Merci Françoise Fabian. Alors Michel Simès, qu'est-ce que vous répondez à ce discours ? Ah, je vous sens un peu...
Je ne réponds rien. Parce qu'en fait, Françoise Fabian, que j'adore et que je respecte beaucoup, à son âge, a entièrement raison de prendre du plaisir si la cigarette lui en apporte. Et elle a aucune raison d'arrêter aujourd'hui, alors que en fumant quelques petites cigarettes par jour, elle prend du plaisir. On peut pas, moi je suis en tant que médecin, je peux pas trop entendre le discours de oui mais si on prive de la cigarette, il faut tout arrêter. Je suis désolé, mais on parlait de l'alcool tout à l'heure avec Nathan, mais vous connaissez l'alcoolisme passif, vous ? Est-ce que vous connaissez l'alcoolisme ? Est-ce que vous connaissez des gens qui meurent liés à l'alcoolisme des autres ?
Oui.
Non. Leur santé n'est pas altérée par le produit lui-même, alors que le tabagisme tue des milliers de personnes qui respirent la cigarette des autres. Donc, il y a vraiment une différence. Alors, je vais pas vous parler de la culture française autour de... Mais moi, je ne fume pas, mais j'adore le bon vin, et il m'arrive de boire du vin sans aucun problème pour ma santé. Donc, on ne peut pas comparer les deux. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on arrête, on empêche le tabagisme, les cigarettes sur la plage pour empêcher les enfants de fumer, pour les protéger, et comparer ça à l'alcool.
Pour vous, ça n'a rien à voir.
Mais non, ça n'a rien à voir.
Mais je trouve qu'il y a un alcoolisme passif, pas au sens où exactement pareil que la cigarette, quand on fume une cigarette, notre voisin peut ressentir du tabac et en recevoir. En revanche, l'alcoolisme, ça fonctionne souvent aussi avec cette logique de la passivité. C'est-à-dire quand vous allez dans un milieu professionnel, ou avec des amis, avec un groupe social, où la consommation d'alcool est hyper fréquente, et que vous vous mêlez à ce groupe social, même pour des raisons professionnelles ou amicales, etc., très vite vous allez être, si personne ne vous oblige à boire un verre, vous allez être incité à boire par mimétisme, et de l'alcoolisme mondain, de l'alcoolisme inconscient à l'alcoolisme tout court, je trouve qu'il y a un processus qui est comparable à celui du tabac.
Sauf que ça devient de l'alcoolisme actif. Vous buvez, on vous met pas un verre dans la bouche en vous obligeant à boire, alors que le tabac, si quelqu'un fume à côté de moi, on m'oblige à respirer sa fumée, même sans me mettre une cigarette dans la bouche. Donc, encore une fois, ça n'est pas comparable. On ne peut pas comparer. Oui, bien sûr qu'il y a l'alcoolisme mondain. Oui, bien sûr qu'il y a l'exemplarité. Il y a le fait qu'on n'a pas envie d'être stigmatisé parce qu'on ne boit pas. Évidemment, c'est un problème social global. Mais moi, je vous parle en tant que médecin. Le tabagisme passif tue. L'alcoolisme passif n'existe pas.
Alors, on parlait de l'injonction sociale à fumer, à boire. Et effectivement, on l'a entendu avec le témoignage de Françoise Fabian, il y avait plutôt un côté glamour à la cigarette. On pense à Hollywood, à Gary Cooper, à Marilyn Monroe, sauf que cette année, la polémique a été relancée au Festival de Cannes, et c'est Alliance Tabac, Alliance contre le tabac, qui a sorti une campagne parodique, le festival où tu cannes, pour interdire les clopes à l'écran. Le cinéma français doit-il arrêter de fumer ? C'est l'avis de Véronique qui s'est enregistrée sur l'application France Inter.
À l'écran, il ne faut plus qu'on voit les gens fumer, parce que c'est une manière ou une autre de promouvoir ce genre de comportement. C'est marrant parce que je viens de voir un film, Les choses de la vie. Tous les personnages du film n'arrêtent pas de se promener avec une cigarette. C'est un film des années 70, je crois, mais il n'y a pas un moment où les acteurs n'ont pas la cigarette dans la bouche.
Nathan Devers, smoking, no smoking, est-ce qu'il faut arrêter de voir des cigarettes à l'écran au cinéma ?
Il faut changer le nom des smoking en plus.
Il faut changer le nom des smoking. Vous avez un avis ?
Oui, je crois qu'on est passé d'un mythe à l'autre. Il y a eu un mythe qui concerne le cinéma, qui concerne la culture de façon globale, qui était un mythe, il faut le dire, mensonger sur le tabac. Ça veut dire un mythe valorisant, c'était cool, c'était sexy, c'était mystérieux de fumer, mais tout cela reposait, et ça a été documenté, sur un mensonge médical absolu, avec certaines campagnes de publicité, notamment aux États-Unis, où certains médecins faisaient croire que c'était même bon pour la santé de fumer. Et tout cela reposait de façon plus profonde sur un imaginaire du tabac, qui n'est pas que européen. Claude Lévi-Strauss, dans Les Mythologiques, étudie les croyances, les mythes des bororos au Brésil sur le tabac, selon lequel le tabac, la fumée, c'était l'acte spirituel par excellence. C'était l'acte qui était un geste de l'âme. C'était le moment où on se mettait à méditer. C'était le moment où on se mettait à aller plus haut que soi-même. Donc tout ce mythe-là sur le tabac, évidemment qu'il doit être critiqué métier. Il doit être observé avec distance. Moi, je suis pas en train de dire il faut revenir aux années 70, etc. En revanche, je pense qu'il y a aussi aujourd'hui.
Il y a toujours le en revanche. Vous avez remarqué, revanche, hein, Michel Simès, on y arrive toujours. Ah bah mais il y a toujours à un moment donné où il dit je ne suis pas fou quand même, mais quand même en revanche,
mais quand même,
allez-y.
Je pense qu'il y a aussi aujourd'hui un autre mythe sur le tabac, qui repose sur une vérité médicale, mais qui est aussi un peu un mythe. Quand vous allez à New York et que vous voyez les espaces fumeurs dans les rues, et que vous pouvez, par exemple, à New York, fumer de la drogue, consommer de la drogue, c'est pas forcément extrêmement mal perçu. En revanche, le type qui va fumer sa cigarette dans l'espace fumeur dans la rue, il est mal vu. C'est sale, c'est pas bien de fumer. Et il y a cette idée derrière, je crois, que c'est une drogue dont on pourrait se passer. Une drogue qui ne sert à rien. Une drogue qui ne nous apporte rien. Et une drogue qui est, je crois aussi, méprisée pour des raisons sociales, et pas seulement pour des raisons médicales. Les raisons médicales me vont très bien, les raisons sociales m'interrogent davantage.
Michel Simès, pour le cinéma interdit, dire la cigarette à l'écran, c'est, pour les jeunes générations.
C'est le problème de l'exemplarité. Vous savez, les jeunes fument, alors en laissant de côté tout le côté médical, mais les jeunes fument souvent, les ados, ils commencent à fumer pour se donner, pour faire genre, pour se donner une contenance, pour avoir quelque chose dans les mains lors des soirées. Et puis un jeune qui ne boit pas lors d'une soirée, même à 16-17 ans, ou qui ne fume pas, il est regardé de travers par ses potes parce que, voilà, c'est... Mais ça, c'est un vrai problème, l'exemplarité. L'image que peut donner, donner la cigarette. Alors, on n'est plus à l'époque du cow-boy de Marlboro, mais aujourd'hui, encore... Alors, ça change. C'est en train de changer. Chez les jeunes, parfois, quand un jeune se met à fumer, dans certains milieux, il est plutôt moins bien vu que quelqu'un qui va se mettre à fumer. Quant au cinéma... Très franchement, si on voit une cigarette dans un film, il y a rien de dramatique, quoi. C'est après, il faut pas que chaque personnage se mette à fumer clope sur clope, parce que là, c'est pas très très bon pour l'image vis-à-vis des jeunes, effectivement.
Donc vous dites pas là pour le coup pas d'interdiction, non, bah après, parce que sinon on interdit les armes à l'écran,
oui,
l'alcool, etc.
Bah après, vous pouvez interdire le martini drive de James Bond aussi. voilà. Après. Faut pas non plus tout mélanger. Ce qui est important, c'est la santé publique plus que savoir si on doit fumer une clope ou pas au cinéma.
Énormément de réactions. En tout cas, ce débat vous fait réagir. Coco nous dit, la cigarette est une addiction pour certaines personnes et cette addiction doit être soignée, non critiquée. On va en parler, Coco, dans un instant. Corinne nous dit encore, peut-être est-ce la même personne, je ne sais pas, mais en tout cas, celle-là est en colère. Donc non, ce n'est pas la même personne. Vive Françoise Fabian, la prohibition a toujours créé plus de problèmes qu'elle en a réglé. Et Imé Mouchka nous dit aussi, alors moi, je voudrais juste vous dire que vous parlez beaucoup de liberté, de fumer, mais en réalité, est-ce une vraie liberté ? Non, car la plupart commencent très jeunes à cause d'une injonction sociale qui fait qu'on doit fumer pour faire comme les autres. Et dans un instant, effectivement, on va se demander si la vraie liberté, ce n'est pas de s'affranchir de la cigarette. On sera en ligne avec Juliette Katz, ex-fumeuse qui ne s'est jamais sentie plus libre que depuis qu'elle a arrêté la clope. Le débat continue sur France Inter.
Je suis rentrée par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure, d'un vieux fado qui vient de loin, qui bat son plein, qui cherche quelqu'un. J'ai rencontré dans les coulisses le son, l'ivresse et les délices de ceux qui longtemps avant moi y avaient droit à cette vie-là. Tu sais, parfois ça sent l'arnaque, y en a qui se cassent, y en a qui raquent, y a ceux qui se taisent, qui rasent les murs. J'ai leurs empreintes sur mes serrures. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, amour, Paris, toujours, Paris, je t'ai quitté jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens. Laisser pour compte, pour retracer une seule rencontre, pour retenir à mon insu un déjà vu que j'ai jamais vu. Je suis rentrée par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure, d'une vue qui donne sur l'infini, d'un demi-siècle, d'une longue nuit. Tu sais, parfois ça sent la faim, y en a qui se mentent, qui te plaisent, qui parlent sans feinte.
sur leurs enceintes. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, amour, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets. Que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens.
Midi 35 sur France Inter, c'était Kerenan avec Paris Island.
Le débat de midi, Paola Puerari sur France Inter.
Toujours en compagnie de Michel Simès, médecin, et de l'essayiste Nathan Dever qui défend le droit de fumer. Avec nous par téléphone, une femme qui s'en est tirée, qui a réussi à arrêter de fumer. Bonjour Juliette Katz.
Bonjour.
Vous animez podcast, vous êtes créatrice de contenu et vous tenez sur les réseaux sociaux un journal de bord où vous racontez votre vie et vous avez documenté l'arrêt de la cigarette. Vous avez quand même fumé pendant 10 ans. Est-ce que vous vous sentez plus libre ?
J'ai pas fumé pendant 10 ans. J'ai commencé à fumer quand j'avais 13 ans et j'ai arrêté, j'ai 36 ans là aujourd'hui, j'ai arrêté il y a 1 an et 8 mois.
Donc
et
ça fait combien de temps ?
Que j'ai arrêté de fumer, non, ou que j'ai fumé pendant plus de 15 ans, quoi.
Pendant plus de 15 ans, pendant plus de 15 ans. Alors, ouais. Est-ce que vous vous sentiez plus libre de fumer ou plus libre de ne pas fumer ?
C'est un super débat. On pourrait parler de ça pendant vraiment très longtemps. Évidemment, je me sens beaucoup plus libre maintenant parce que je crois qu'en fait, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se cacher derrière des trucs. Quand on fume, on est addict. On sait que ce n'est pas bon, on sait que c'est de la merde, excusez-moi l'expression, mais on le sait très bien. Je veux dire, il n'y a personne qui le sait mieux que les fumeurs. Ok. On est libre, en effet. On fait ce qu'on veut de notre santé. On est libre de notre corps. En revanche, le jour où je me suis vraiment séparée de la cigarette, et pourtant, j'adorais fumer, pourtant, je n'avais pas du tout l'envie d'arrêter de fumer. Je l'ai fait parce que j'ai eu des petits problèmes de santé, rien de grave, mais je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Et en effet, il y a une forme de libération énorme parce que je me sentais complètement soumise et dépendante. Je fumais quand j'étais en colère, je fumais parce que j'avais rangé chez moi, donc je me fais un petit cadeau. Je fumais quand j'allais en soirée et quand j'étais avec des amis. Donc il y a toujours une forme de récompense. Vraiment, c'est la cigarette. Alors oui, on est accro, mais il y a une dépendance énorme. Et à partir du moment où j'ai arrêté ce truc-là, alors au début, je ne savais pas quoi faire de mes mains, mais à un moment, je me suis dit, mais putain, je me sens vraiment libérée, je ne dépense plus. Là, j'ai économisé, je crois, 6-7 000 balles. J'ai pas fumé, j'ai une application, j'ai pas fumé 12 500 cigarettes. Est-ce que vous vous rendez compte, 12 500 clopes, c'est lunaire. Donc, en effet, je me sens libérée et surtout, je suis hyper fière de moi. Vraiment.
Alors, Juliette Katz, vous restez avec nous, mais je ne peux pas m'empêcher de donner la parole à Nathan Dever. Mm-hmm. Est-ce que vous n'êtes pas, vous, finalement, le libertaire, complètement l'esclave de la cigarette, Nathan ?
Mais peut-être. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre sur le tabac, parce que dans la littérature sur les drogues, il y a cette idée qui revient très souvent, que chaque drogue correspond, entre guillemets, à une maladie, à une souffrance personnelle, un déséquilibre personnel. Que si vous allez être attiré par telle ou telle drogue, c'est qu'il y a un vide en vous. Et je me posais la question de savoir quel est le vide du fumeur. Qu'est-ce qui fait que toutes les 5 minutes, il a besoin d'aller chercher une récompense, récompense à son stress, récompense à ses bonnes nouvelles, récompense au malheur, récompense à être à la plage, bon, etc. Et je crois qu'il y a chez le fumeur quelque chose qui, en tout cas, que j'identifie un peu comme une sorte de prédisposition, c'est que contrairement aux autres drogues qui vont avec une ivresse, et une ivresse c'est le fait de fuir complètement le réel, le fumeur a le besoin de faire des micro-fuites, des fuites sur le mode de la pause. Quand on fait une pause clope en travaillant, qu'est-ce qu'on fait ? On ne s'évade pas, puisqu'on sait qu'on va revenir au boulot 3 minutes plus tard. On fait cette micro-évasion de dire « je suis dans le réel, mais je n'y suis pas complètement ». Et je crois qu'au-delà même de l'addiction médicale, etc., il y a ça comme prédisposition chez beaucoup de fumeurs, et qui n'est pas forcément d'ailleurs un rapport... on peut estimer qu'il y a quelque chose de déséquilibré là-dedans, une incapacité à habiter pleinement le réel et à s'habiter soi-même pleinement.
Juliette Katz, comment est-ce que vous avez remplacé ces pauses, ces petites récompenses ? Qu'est-ce qui a arrêté de se consumer avec la cigarette, mais que vous avez remplacé ?
Bah rien. J'ai juste pas remplacé, en fait. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Alors, je vais pas avoir le temps de beaucoup discuter, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de se cacher derrière des trucs, quoi. Vraiment, je veux dire, on est accro. On a commencé, comme l'une des auditrices l'a dit, on a commencé à fumer majoritairement pour faire un peu les grands comme nos potes, etc. On s'est caché derrière la cigarette. Et c'est, en effet, il y a un truc de récompense. Mais à un moment, je me dis juste, il faut arrêter de se mentir. Faut arrêter. J'étais complètement accro à la clope. J'ai adoré fumer. Et je sais très bien que si demain je reprends une taf, je retombe. Parce que c'est touchy tout ça. C'est hyper délicat l'addiction. C'est très compliqué. On le voit bien. Alors le sujet de l'addiction au sucre, c'est un autre sujet parce que ça se pose aussi. Mais bref, on voit bien qu'on a besoin d'être dépendant. L'humain a besoin d'avoir des portes de sortie à droite à gauche. Donc c'est en effet très intéressant de questionner ça. En revanche, pourquoi je vous dis ça, moi, maintenant?
Alors, vous nous disiez, ce qui m'a intéressé dans votre propos, Juliette, c'est que vous dites, si je refume une taf, ouais. Je peux retomber. Michel Simès, est-ce que quand on a été fumeur, on reste éternel ex-fumeur qui ne fume plus, mais voilà, fumeur quand même, mais qui ne fume plus?
Le principe est ultra simple. Vous avez des récepteurs nicotiniques dans le cerveau. Plus vous fumez, plus vous allez fabriquer des récepteurs à la nicotine et plus vous aurez besoin d'augmenter votre dose de tabac et de nicotine. Quand vous arrêtez de fumer, ces récepteurs vont disparaître progressivement. Il en restera toujours un petit peu, mais de moins en moins. Et si vous refumez, vous réactivez vos récepteurs. Mais la question qu'il faut se poser, qui est intéressante, c'est... Est-ce que je fume par plaisir ou est-ce que je fume par besoin ? Moi, je veux bien votre histoire d'évasion, quand vous êtes au boulot, vous prenez votre cigarette, vous allez fumer un peu, c'est une façon de sortir du réel, why not ? Mais le problème, c'est est-ce que vous sortez parce que vous avez envie de vous faire plaisir ou est-ce que vous sortez parce que quand vous êtes rentré tout à l'heure dans le studio, on vous a demandé si vous alliez tenir une heure. Et vous avez dit que vous alliez devenir de plus en plus nerveux au fur et à mesure de l'émission, ce qui prouve que vous êtes addict et que vous êtes prisonnier de votre dose de nicotine. Donc cette liberté, moi je veux bien qu'on parle de liberté, mais vous ne l'avez plus. Vous n'avez plus de libre arbitre, puisque vous avez besoin et que vous savez vous-même qu'en trois quarts d'heure, vous allez devenir plus nerveux.
Nathan, vous voulez répondre ?
Oui, oui. Sur le fait de devenir nerveux, c'était un peu une plaisanterie.
Je ne crois pas. Je crois que si vous fumez un paquet de cigarettes par jour depuis tant d'années, vous avez une addiction probable. Alors, il y a des addictions psychologiques et des addictions physiques. Mais je pense que quand vous prenez l'avion, que ça dure un peu trop longtemps, vous ne devez pas être très très bien.
Ah oui, ça je suis totalement d'accord.
Donc, c'est
avec
une
vous.
Addiction.
Et bien sûr, c'est une addiction. Bien sûr, c'est une prison. Et bien sûr, le fumeur n'a pas son libre arbitre. Le discours consistant à dire je peux arrêter quand je veux, je ne suis pas prisonnier de ça, etc. C'est de la mauvaise foi totale. La question, moi, que vraiment, c'est la seule nuance que je mets. Qu'on puisse tout faire pour dire, par exemple, sur les futures générations, la cigarette, ça peut être un cauchemar. C'est un enfer d'addiction. Vous n'en sortirez pas. Ne commencez pas. Et que des médecins puissent dire aux jeunes de demain, de la fameuse génération 2032, attention, c'est très dangereux, etc. C'est une chose. La seule nuance, c'est quand la ministre de la Santé ou le plan de lutte contre le tabac dit on va créer une génération 2032 sans tabac. Et ça, c'est la petite nuance que je mets. On pourrait l'appliquer aux drogues illicites, on pourrait l'appliquer à l'alcool. Votre auditrice tout à l'heure disait « la prohibition a quasiment toujours créé plus d'effets négatifs que d'effets positifs ». On n'est pas obligé d'en venir à l'interdiction, me semble-t-il.
Vous savez, il y a un élément dont on n'a pas parlé, mais on a parlé du coût social avec le cardiologue tout à l'heure. Mais il y a des chiffres qui sont assez extraordinaires. Il y a 30, chez les gens les plus modestes, qui ont des revenus les plus faibles, il y a 30% des personnes qui fument. Chez les gens plus aisés, c'est 18%. Ça veut dire que aujourd'hui, oui, il faut s'attaquer à la génération jeune qui demain va malheureusement dépenser. Vous savez combien vous dépensez par an ?
Oui, beaucoup.
3 500 euros par an. Vous dépensez en fumant un paquet de cigarettes. Vous vous rendez compte chez des gens qui ont des revenus très faibles ce que ça donne ? Et pourtant, ce sont eux qui fument le plus, pratiquement le double que les gens les plus aisés. Et là, il y a un déséquilibre social contre lequel il faut lutter.
Juliette Katz, dernière question. Est-ce que vous vous sentez bien fière de vous, libre ? Faites-nous une petite ode pour aider les fumeurs qui nous écrivent.
Non mais évidemment, enfin, je veux dire, je peux pas mentir, je me sens vachement libérée, vraiment, enfin c'est... À partir du moment où on met un truc en place et qu'on se débarrasse de quelque chose qui est nocif pour nous, que ce soit une relation toxique, un travail, une addiction comme ça, évidemment qu'on se sent libéré. Par contre, j'aimerais quand même émettre un peu un petit regard. Alors peut-être que je suis très naïve, mais
rapidement.
Je pense que ce serait... Oui, rapidement. Je pense que ce serait intéressant que le gouvernement arrête de pointer les citoyens et les consommateurs. Arrêtez de fumer, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, boire avec modération. Arrêtez de nous vendre tout ça, arrêtez de vendre de la merde et on en reparlera.
Eh bien voilà, ça sera les mots de la fin de ce débat sur la liberté de fumer, la liberté de non fumer, de ne pas fumer. Merci à tous les deux d'avoir été au micro de France Inter. Nathan Devers, je rappelle, Espace Fumeur à lire aux éditions Grasset. Michel Simès, le débat de midi, c'est fini pour aujourd'hui. Et demain, on continue, on remet ça, on remet le couvert et on va débattre de l'héritage. La France est-elle devenue une société de rentiers? Faut-il déshériter ses enfants pour que l'ascenseur social fonctionne à nouveau? Envoyez-nous dès maintenant vos messages, vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000. Merci à mon équipe qui a fait un boulot épatant, Aurore Mansip, Johan Duval, nos stagiaires, Anaë Balista et Ryan Saibi, à la réalisation Riyad Kera, à la programmation musicale Valentine Chedebois et à la technique. Aujourd'hui, c'était Loïs Moreau. Le débat de midi revient demain.